d'être 17h tout de suite, le journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. Au sommaire, ce 2 novembre 2022, célébration de la journée internationale des crimes impunis contre les journalistes. Une opportunité, selon le président de la Maison de la Presse, de protéger les journalistes pour une liberté de presse. Les détails dans un instant. L'école des malvoyants de Birnin-Kouani rencontre des difficultés d'inscription des enfants. Les parents de ces enfants seraient la cause du problème. Le directeur de l'école à suivre dans ce journal. La partie magazine de cette édition portera sur le fonctionnement du comité de veille citoyenne à Kouré. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 2 novembre est célébrée la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes adoptée en 2003 par une résolution des Nations Unies. C'est une occasion pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur l'impuissance souvent des juridictions à traiter de ces crimes. Ibrahim Harouna, président de la Maison de la Presse du Niger, au micro de Tajissir Ali Ahmed.
Cette date a été adoptée par une résolution des Nations Unies en 2003 à travers la résolution 68-163 permettant donc d'avoir l'esprit et l'impunité surtout des crimes commis contre les journalistes. Donc il s'agit à travers cette date d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe en matière des crimes et des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse et la liberté de circulation de l'information. Rien qu'entre 2006 et 2020, 1200 journalistes ont été tués. Et 9 affaires sur 10 n'ont jamais été résolues. Ce qui montre que la justice a du mal à traiter cette situation des crimes contre les journalistes. Pour le cas de notre pays, il faut s'en remercier qu'on n'a pas atteint le stade où il y a des crimes, où il y a des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée.
Du 27 au 31 octobre s'est tenu à Dakar au Sénégal le 11e forum régional sur les politiques et événements d'apprentissage. Une délégation de la coalition nationale des associations, syndicats et ONG pour une éducation pour tous au Niger a pris part. Selon les spécialistes, plusieurs défis plombent de nos jours encore l'éducation en Afrique. Al-Mustapha Moussa Idé, président de l'ASSO EPT, est au micro de Mokhtar Hamadou.
Aujourd'hui, le secteur de l'éducation fait face à de sérieuses difficultés. Selon l'Institut statistique de l'UNESCO, aujourd'hui, plus de 70% des pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à une grave pénurie d'enseignants dans le primaire et 90% à une grave pénurie aussi d'enseignants dans le secondaire, ce qui représente le plus grand défi d'enseignants au monde. Avec la croissance démographique, notre continent, particulièrement l'Afrique subsaharienne, devra recruter 17 millions de nouveaux enseignants d'ici 2030. Et nous estimons que l'éducation est le meilleur investissement que l'Afrique puisse faire pour transformer sa population jeune afin qu'elle devienne une nouvelle génération de dirigeants qualifiés. Nous allons continuer à œuvrer pour que le droit à l'éducation, malgré le contexte de crise, puisse être une réalité dans notre pays.
L'école spéciale pour les enfants malvoyants de Birnin-Kouani rencontre chaque année presque les mêmes problèmes. Les parents des enfants refusent d'inscrire ces derniers à l'école, une situation qui préoccupe les responsables de l'établissement. Cette année encore, ils sont obligés de prolonger le recrutement des enfants pour en avoir le maximum, a indiqué Nassir Oujibo, directeur de l'école. Il est au micro d'Assoumane Moussa Arzika.
Pour l'instant, nous avons recruté 2 filles et s'il y a d'autres que l'on n'a pas encore amenées chez nous, qu'on les amène, nous allons les recruter car nous ne sommes qu'à la rentrée scolaire. Chaque année, nous avons ce problème de recrutement des élèves aveugles. Nous partons quartier par quartier pour sensibiliser les parents. Nous rencontrons toujours des difficultés pour avoir ces élèves aveugles. Présentement, nous n'avons pu recruter que 2 enfants et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres dans la ville. Il faut nous aider en les amenant ici pour les inscrire. L'année passée, c'est au milieu de l'année que nous avons pu avoir 2 enfants recrutés. Certes, avec la sensibilisation, les parents ont commencé à comprendre l'utilité. Nous souhaitons à ce que ceux qui n'ont pas été recrutés soient amenés, car c'est leur droit.
Direction le Bénin où s'est tenue du 24 au 27 octobre à Cotonou une rencontre internationale sur l'alimentation scolaire. La rencontre a vu la participation de 44 pays, 32 organismes et plusieurs experts. Les participants ont échangé les expériences entre pays. Le programme de gestion de cantines scolaires par les communautés au Niger a été apprécié selon le directeur des cantines scolaires du Niger. Lawali Abdo est au micro de Karim Hassoumi Grouza.
Notre programme a été bien apprécié par les autres, surtout lorsque nous avions parlé des achats locaux, lorsque nous avions parlé des cash transferts. Comment est-ce que nous sommes parvenus à mettre les ressources dans les mains des communautés et c'est la communauté elle-même, à travers son propre audit, gère les cantines. Ça, c'est vraiment une expérience totalement inédite et nous sommes en train de réfléchir pour voir comment est-ce que même la part de l'État, on peut utiliser cette modalité-là pour les autorisations, par exemple, des dépenses. Mais ça, il faut que l'État arrive à transformer un peu les anciennes procédures pour faire fonctionner beaucoup plus nos structures d'appui, en même temps aussi permettre à la communauté elle-même de créer les conditions de sortie. C'est pour cette raison que le cash transfert peut être une très grande opportunité pour habituer les communautés à gérer et elle va vraiment se prendre en charge.
Au Niger, de la synthèse d'une réunion tenue hier, le Premier ministre a annoncé des réflexions sur un programme global d'éradication de la mendicité. Selon Oumoudou Mahamadou, à travers ce programme, le gouvernement entend lutter contre la mendicité autant à l'extérieur qu'à l'extérieur des frontières du pays. En attendant la mise en œuvre de ce programme, des mesures immédiates comme l'intensification des contrôles sur les postes frontaliers afin d'empêcher tout groupe de femmes avec beaucoup de petits-enfants ou des personnes âgées à rejoindre les pays voisins pour mendier sont prises selon l'agence nigérienne de presse ANP. La société Global Atomique, qui est dans l'exploitation de l'uranium, va lancer ses activités le 5 novembre prochain sur son site situé dans le département de Tchirozérine, région d'Agadez. Une mission de la société est arrivée ce mercredi sur place. Mohamed Djibri, la chef de la mission de la société Global Atomique, au micro d'Ahmed Félan.
Oui, le lancement, c'est le 5 novembre 2022 là-bas. Ici, nous allons aller avec une grande équipe du comité d'organisation du lancement pour voir l'organisation sur les sites. Donc, c'est ça l'objet même de cette mission. Les sites. Moi, en tant que maître de cérémonie, je suis avec eux pour voir aussi sur les sites quel est l'avancement de l'organisation. Mais ce qui est sûr, il y aura une grande mobilisation parce que sur le premier tir, sur le lancement, il y aura une grande mission ministérielle conduite par Charles, le Premier ministre, qui sera là les 5 pour le lancement du premier tir de cette globale. La population, d'abord, ce qu'il faut comprendre ici, ce que c'est le lancement. Il y aura la création d'emplois. Quand vous avez une mine, ce que les gens vont y travailler. Donc, il faut que tout le monde soit mobilisé pour le lancement. Il faut voir l'économie. L'État a pensé à tout ça là, c'est pour que l'économie nigérienne avance. Donc il y aura une création d'emplois, c'est ce que sûr.
La situation phytosanitaire cette année dans la région de Zender a été caractérisée par des attaques de sautereaux et autres ennemis de culture dans la partie nord et est de la région selon les services de l'agriculture. Plus de 7000 hectares ont été infestés selon Moussa Ibrahim, directeur régional de l'agriculture. Il est au micro de Ali Kaita.
Elle a été caractérisée cette année par des attaques importantes des sautereaux, notamment dans le nord de notre région, Tanout, Belbéji, Damagaramtaka, Mpeogouri. Donc en dehors des sautereaux, nous avons aussi d'autres ennemis des cultures comme la cicadelle, comme la chenille défoliatrice, comme les pucerons, comme les insectes pour le col, pour ne citer que cela. Donc au total, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avions enregistré 7700 hectares qui avaient été déclarés infestés. Nous avions traité 7029 hectares, soit 99,69%. Avec des moyens, les camions, nous avons aussi fait des traitements brigades, des brigadiers, donc les moyens, les appareils ont été mis à notre disposition, les produits, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à ces attaques.
L'élection du sultan de Katsina est prévue pour le samedi 5 novembre. 33 princes contestent la convocation du collège électoral. Pour Mahamman Salissou, membre du collectif de ces princes, ils sont depuis un an en contentieux avec un membre du collège électoral. Leur avocat est en train de tout faire pour saisir qui de droit. On l'écoute au micro de Mohamed Maman.
Ça fait plus d'un an que nous avons un contentieux avec un des membres du collège électoral. Il nous a insultés, il nous a traités de tout. Et nous avons déposé une plainte au niveau de la justice. Mais jusqu'à présent, le verdict encore n'est pas tombé. Mais comment tu peux aller à l'élection avec un des membres qui ne veut pas de toi? Tu sais, quoi qu'elle en soit, elle ne va pas te choisir. Et nous avons envoyé les correspondances aux différentes juridictions de notre pays. Nous avons parcouru la liste et cette même liste comporte des inégalités. Parce que c'est à 18 ans plus tôt qu'il ne faut pas partir de la famille d'Akasawa. Nous ne savons pas sur quelle base leur nom est sorti. Voilà pourquoi nous refusons. Nous voulons encore que une autre enquête soit diligentée. Nous avons déposé le dossier avec le nom des grands-pères. Et je ne sais pas sur quelle base on a copié ça. On peut dire Mohamed Sani Mujinyawa. On dit Mohamed Sani tout court. On ne peut pas savoir de quelle lignée c'est. Ça, c'est une entrave. Quant à ça, la convocation du collègue, parce qu'il y a deux noms qu'il ne faut pas partir de la famille d'Akasawa. L'affaire suit son cours parce que nous attendons notre avocat. Tout y est. Et notre avocat a fait des pieds et des mains pour envoyer cela au de droit.
En football, l'équipe nationale, le MENA, a poursuivi son stage de préparation à Tabarka en Tunisie dans le cadre du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023. Les poulains du coach Doula Harouna joueront aujourd'hui leur premier match amical contre le pays organisateur, l'Algérie. Pour rappel, les Nigériens sont logés dans le groupe E avec le Cameroun et le Togo. Bienvenue dans la partie magazine. Pour mieux contrôler la gestion publique, il est fait souvent recours à des personnes indépendantes venant de la société civile. C'est dans cette optique que le comité de veille citoyenne a vu le jour. À Kouré, dans le département de Kolo, région de Tillabéri, le comité de veille citoyenne suit avec attention les priorités des habitants de la commune. Madame Bourema Kadiga Seini, maire de Kouré, explique comment il fonctionne. Elle est au micro du studio Kalangou.
Madame la maire, disposez-vous d'un comité de veille des citoyens de la commune rurale de Kouré?
Oui, effectivement, nous avons un comité de veille citoyenne dans la commune de Kouré.
Pourquoi avoir créé ce comité?
Donc, ce comité-là, nous l'avons créé, c'est vraiment pour nous faciliter le travail, pour créer cette ambiance de confiance entre nous et les populations. Parce que quand la population est imprégnée de tout ce qui se passe à la mairie, il n'y a pas de doute. La gouvernance sera vraiment claire, transparente et tout le monde va se trouver dedans. Le comité de veille, moi, je peux dire, c'est comme si c'est un passage transitoire entre la mairie et la population. Parce qu'ils interpellent souvent la mairie, ils rendent aussi compte à la population de ce que la mairie est en train de faire. Ils sensibilisent la population et ils organisent aussi des actions vraiment dans la bonne gestion de la commune.
Et avec qui ils travaillent?
Ils travaillent avec tout le monde, si je peux le dire, parce qu'ils sont tantôt à la mairie, dans les écoles, dans les centres de santé, et ils rendent compte à la population.
Comment vous appréciez le travail du comité de veille?
Nous l'apprécions vraiment bien parce que depuis leur arrivée, nous, ils nous ont même allégé les tâches. Parce qu'avant, il faut se déplacer pour aller dans les écoles, pour voir ce qui se passe dans les cases et les centres de santé aussi. Il faut aller à l'environnement, à l'agriculture, l'élevage. Maintenant, c'est ce cadre-là qui est en train de faire des suivis et ils viennent nous rendre compte. Et nous, on prend en compte ce qu'ils nous disent et on travaille avec ça. Donc vraiment, nous, ce comité-là nous a facilité la tâche. Parce que nous avons 41 villages. Si on décide uniquement de prendre le domaine de l'éducation, combien de jours on va mettre pour avoir les problèmes réels de l'éducation dans chaque école de la commune? Il y a la santé, il y a l'éducation, l'environnement, l'élevage. Maintenant, tout ça, là, c'est le comité de veille qui appelle les services techniques. Ils discutent, ils font des propositions. Après, ils viennent nous transmettre ce qu'ils ont arrêté. Et nous, on voit si c'est bon, on accepte. Si c'est pas bon, on les convoque. Venez, sur tel point, nous ne sommes pas d'accord, on va arranger.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant à Tarnal Foudé Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. À 18h15, vous aurez le forum sur le thème « Apport des internats pour le maintien des filles à l'école », cas de l'internat de Kélé de la région de Zender. Et c'est avec Zara Boukar. Bonne réception.
à Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.